Ok. Du coup, bonjour à tous. Je suis je suis hydrogéologue à la base. Donc, j'entendais des questions pour les hydrogéologues, mais c'est quand même un domaine assez multidisciplinaire, l'hydrogéologie. Donc, je pourrais pas répondre à toutes les questions, pas plus que, encore moins que Patrick Lachassagne. Mais voilà, donc je vais vous parler du travail qu'on a fait sur le rôle de l'eau profonde dans la résilience des arbres méditerranéens, enfin de forêts méditerranéennes, enfin une partie et d'autres un peu moins méditerranéennes, vis-à-vis des sécheresses. Et à travers deux approches qui sont le traçage isotopique et la géophysique. Donc je voulais vous parler juste quelques mots sur l'objet qui est la zone critique. La zone critique, c'est, je voulais en parler parce que c'est une approche assez hydrologie. Ça consiste à étudier l'enveloppe externe de la Terre. Donc la zone critique, dans la définition, ça s'étend du sommet de la canopée jusqu'à la base des aquifères les plus profonds. Donc c'est très vaste, c'est un terme que je mettais qui ne veut pas dire grand chose, c'est dérivé de l'anglais, mais voilà, donc c'est critiquable. Quand j'en parle aux collègues écologues, souvent ils me branchent là-dessus, mais il n'empêche que c'est une approche en soi, en fait, qui va favoriser l'interdisciplinarité, la prise en compte des différents processus entre eux. Et donc nos travaux, ils se placent dans ce sens. Et voilà, la zone critique, c'est le terme assez de plus en plus utilisé en hydrologie, mais parce qu'on dit que le centre de la zone critique, c'est l'eau. Mais finalement, enfin, c'est un peu ce que vous faites aussi. Enfin, ce pourquoi on est tous réunis là, c'est de parler de ces liens entre la forêt et l'eau. Donc, l'évapotranspiration. Donc, Jean-Marc en a parlé. J'ai pas exactement les mêmes chiffres, mais on est sur les mêmes ordres de grandeur. Il faut savoir que l'évapotranspiration, c'est le principal devenir des eaux de pluie, enfin à l'échelle globale. En zone méditerranéenne, on serait autour de... Donc moi, j'ai retenu 80% de la pluie qui serait évapotranspirée. Jean-Marc avait annoncé un peu moins, mais bon, c'est quand même ça reste très fort. Et sur ce terme évapotranspiration, une grosse partie, c'est de la transpiration. Donc en zone méditerranéenne, et semble-t-il encore plus si on va sur le site de Barbeau, par exemple. Et donc, si on veut, en tant qu'hydrogéologue, si on veut étudier le devenir des eaux souterraines, savoir ce qui rentre dans notre système souterrain, qui est lui-même assez encore difficile à caractériser, parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas palper, qu'on ne peut pas voir, mis à part en faisant quelques forages. Aujourd'hui, je pense que la communauté scientifique est assez unanime sur la. Enfin, on a quand même beaucoup de travaux sur la recharge des aquifères, parce que c'est quand même encore là qu'on a une belle marge de progression en termes de caractérisation des flux pour comprendre la dynamique des eaux souterraines. Et donc, voilà pourquoi moi je m'intéresse à l'hydrologie, enfin l'hydrogéologie en milieu forestier. Parce que la transpiration des arbres, ça représente autour de 50% du devenir des eaux de pluie au final, en région méditerranéenne. Donc moi, je vais vous parler de forêts qui sont situées en milieu karstique, puisque je vais vous parler de deux sites forestiers en Provence. Un peu plus au nord, dans le Vaucluse, et les milieux forestiers en Provence, sur le pourtour méditerranéen, ils se retrouvent souvent en fait sur des milieux karstiques, parce que c'est des zones, des terres peu productives, très caillouteuses, et donc on les laisse naturelles, on va dire, et puis c'est là que se sont développées au fil du temps les forêts. Donc je vais vous parler de l'eau profonde, mais attention, par rapport à ce qui a été dit précédemment, Je vais vous parler d'eau profonde dans la zone non saturée de l'aquifère. Donc, c'est-à-dire, c'est cette partie, et non pas, c'est pas de la on ne parle pas de ripisylve, ce n'est pas des arbres qui vont prélever de l'eau directement dans la zone noyée, qui est, ou zone saturée en eau, qui est l'aquifère en fait. Voilà, je vais vous parler de l'eau qui est prise dans la zone non saturée profonde, mais sur des sites en fait où les arbres n'ont clairement pas accès à la nappe phréatique parce qu'elle se retrouve à plusieurs centaines de mètres de profondeur. Et donc je vais partitionner mon discours avec l'eau superficielle qui est plutôt dans le sol, aussi petit qu'il soit, en zone karstique, et l'eau un peu plus profonde. Deux qui sont passés d'un coup. Et donc, je vous disais juste avant, en zone méditerranéenne, souvent, les forêts, elles se retrouvent sur les zones où on a des affleurements de roches karstiques. Et c'est l'exemple qui est assez beau ici, c'est le bassin versant de la fontaine de Vaucluse. Vous pouvez voir que le bassin versant, ça épouse parfaitement la zone boisée. On peut voir ici la plaine d'Apt, la plaine d'Avignon à côté, qui sont des zones cultivées avec de la vigne, un peu de céréales. Et mis à part sur les plateaux de Vaucluse, en haut, où on a un petit peu de lavande et un peu d'épeautre, et bien sinon, c'est de la forêt. Et donc, l'objet d'étude, c'est le site de Rustrel, qui est un site qui est devenu scientifique, qui à la base était un bunker qui permettait de contrôler les missiles nucléaires du plateau d'Albion. Mais il n'y a rien de tout ça, rassurez-vous maintenant. Ça a été reconverti en site scientifique depuis une vingtaine d'années. Et puis je vous parlerai rapidement d'une parcelle, de résultats obtenus sur une parcelle juste au nord du Mont Ventoux. Donc la première approche dont je vais vous parler, c'est le traçage isotopique. Donc le traçage isotopique, ça va consister à étudier, sans rentrer trop dans les détails, on va consister à étudier les isotopes, dans notre cas de l'eau, de l'oxygène 18. Il faut savoir que en fait, les atomes d'oxygène, en fait, normalement, ils contiennent 16 protons et neutrons. C'est l'oxygène 16, ça c'est ce qu'on retrouve en général. Et nous, on va s'intéresser à des atomes un petit peu particuliers qui sont oxygène 18, qui vont en contenir 18 au lieu de 16. Et donc, on a des moyens analytiques qui nous permettent de les repérer. Et en fait, on s'en sert comme traceur pour savoir d'où vient l'eau prélevée par les plantes, comment elle est transpirée. Et donc, on a... l'illustration ici, c'est pour le cas de Rustrel. On a prélevé de l'eau dans les galeries du laboratoire souterrain de Rustrel, ici. Une eau qui est représentative du signal souterrain, à une trentaine de mètres de profondeur. On a prélevé l'eau en surface, au niveau de la pluie et du sol. Et on a prélevé de l'eau dans les arbres. Et on a prélevé l'eau du xylème, donc l'eau qui est directement prélevée par les arbres et donc qui n'est pas modifiée, dont la qualité isotopique n'est pas modifiée par les processus de transpiration. Et ensuite, on a extrait l'eau du xylème en laboratoire et ensuite on l'a analysée avec un appareil qui s'appelle un spectromètre de masse. Donc les résultats qu'on a obtenus, ça commence à dater un petit peu, c'était en 2014-2015, ils se sont étalés autour de ces deux périodes estivales, donc 2014 qui était une année plutôt humide, il y en a eu des précipitations un peu réparties tout au cours de l'été, et 2015, un été plutôt sec. On voit clairement qu'après la dernière pluie qui devait être en juin, quelque chose comme ça, on a une période de sécheresse très prononcée. Les résultats qu'on obtient sont ceux-ci, ça c'est les résultats bruts, hein. Rapidement. Le signal de l'eau souterraine, le signal d'abord de l'eau de pluie et du sol, en fait, il varie au cours des saisons, ça c'est bien connu, c'est de l'hydrologie, il varie en fonction de différents paramètres comme la température de précipitation de l'eau, l'origine de l'eau, la saison. Et le signal de l'eau souterraine, lui, il est beaucoup plus plat quand on le compare à l'eau de surface. même il est extrêmement stable. Et les carrés verts, ce sont les prélèvements de différents arbres qu'on a pu faire ici pour le site de Rustrel. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que lors de l'année humide, les carrés verts, eh bien, ils sont très proches de l'eau de surface. Et pendant l'année la plus sèche, en fait, les carrés, donc les arbres, se retrouvent avec un signal isotopique qui est un mix entre l'eau de surface et l'eau souterraine. Et donc, si on fait une déconvolution de ce signal, ça nous donne ceci, c'est-à-dire que ici, on a l'année 2014, ici, l'année 2015. On voit qu'aux différentes dates, ici, c'est les proportions d'eau souterraine prélevée, donc avec en bleu foncé la proportion d'eau souterraine. On voit qu'elle s'est beaucoup plus, enfin, c'est significativement plus faible lors de l'année la plus humide et plus fort lors de l'année la plus sèche. Donc les arbres prélèvent plus d'eau souterraine lors des années sèches pour passer les sécheresses. Alors, j'oublie. Non, c'est bon. Et si on fait une vision un peu plus synthétique, donc j'ai fait la moyenne de chacune des 2 années, on remarque effectivement que les chênes verts, ils vont prélever autour de 20% d'eau souterraine en période lors de l'été pas très sec. Et par contre, lors de l'été le plus sec, ils vont prélever près de 40%. Alors, il faut moduler cette vision avec les différentes espèces. Donc là, je fais intervenir les résultats qu'on a obtenus dans des conditions expérimentales assez proches sur le site du Ventoux, sur le hêtre et le sapin. Et on voit que le hêtre et le sapin, ils prélèvent encore moins d'eau souterraine parce que c'est des espèces qui sont peu adaptées, enfin qui sont moins stressés, on suppose, généralement, et donc qui ont développé moins de racines en profondeur, surtout le sapin. On sait que le sapin, il est quand même assez sensible aux sécheresses. Et par contre, on peut être interpellé par le hêtre qui va prélever beaucoup d'eau souterraine lors de l'année la plus sèche. Le problème, c'est que tout ça, c'est des pourcentages. Mais en réalité, le flux d'eau transpirée lors de la période de sécheresse, il est assez limité. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un petit travail de modélisation avec un outil de modélisation qui s'appelle Suro, dont Nicolas Martin là, est le concepteur, et donc je pense qu'il vous en reparlera demain, si c'est pas tout à l'heure, demain. C'est la slide suivante. Et donc, on a cherché à reproduire les données isotopiques, les expérimentales, c'est-à-dire les proportions d'eau souterraine prélevées avec le modèle. Et donc, en noir, c'est le modèle, c'est l'évolution de la proportion d'eau profonde lors des 2 années. Et en rouge, c'est les points d'observation, ce qu'on a déterminé par suivi isotopique. Et donc, on arrive à reproduire avec ici les données simulées, les proportions d'eau souterraine simulées en fonction des observés. On arrive à reproduire à peu près les tendances. Et on arrive à reproduire ces tendances en créant en fait un réservoir d'eau profonde qu'on va représenter et dans lequel on va mettre seulement 1,2% de racines dans ce réservoir profond. Donc, c'est-à-dire qu'il ne faut pas beaucoup de racines pour expliquer la survie des arbres. Et en plus, les prélèvements qui vont être liés, en fait, vu qu'on a une diminution de la transpiration en période sèche, quand les arbres sollicitent beaucoup proportionnellement cette ressource en eau profonde, on a en fait une utilisation de ce réservoir profond sur l'année, en fait, quand on fait le cumul de toute l'année, qui est seulement de 20 mm. Voilà, donc c'est pas si énorme que ça. Ça représente donc sur l'année 7% de l'évapotranspiration totale sur la parcelle pour Rustrel. Ça, c'est le travail qui a été fait juste pour Rustrel. Donc voilà, ça permet de mettre quelques chiffres qui peuvent être discutés après. Deuxième approche, C'est l'approche, une autre approche qui peut nous donner des informations sur le sous-sol, c'est la géophysique. Donc la géophysique, c'est une science qui va permettre, selon différentes approches physiques, de sonder le sous-sol. Donc on a des approches, on va sonder le sous-sol en envoyant des ondes électriques, par exemple, la tomographie de résistivité électrique, et on va réceptionner un signal et on va déterminer les propriétés physique de la roche, et ensuite on va essayer d'interpréter ça en termes de géologie, puis d'hydrogéologie. Voilà. On peut faire la même chose avec des techniques électromagnétiques, qui vont nous permettre plutôt de faire des cartes. Et on va avoir aussi le géoradar, qui est aussi une technique électromagnétique. Ça, vous voyez peut-être parfois des gens sur la chaussée qui détectent des canalisations. Ça peut permettre de détecter des racines. La gravimétrie aussi, qui va permettre d'étudier l'accélération de la potenceur, donc G, 9,81, donc en fait c'est pas tout à fait 9,81, et surtout ça varie dans le temps en fonction des conditions hydrologiques en permanence, et donc nous on peut étudier ça. Donc je vais vous donner, et je vais illustrer quelques résultats autour de la tomographie de résistivité électrique, qui est vraiment une technique assez répandue. Donc toujours sur le site de Rustrel, vous voyez ici la galerie du LSBB, donc il y a une trentaine de mètres de profondeur. On a fait un profil de résistivité avec nos électrodes qu'on est allé implanter ici, et on a fait un suivi avant la pluie, à la suite d'un été assez sec, et après une très forte pluie de 230, enfin un épisode pluvieux qui s'était allé sur une semaine ou 10 jours. Et en fait on voit une très forte variation des propriétés physiques du sol, donc de résistivité électrique, et le milieu devient nettement plus conducteur quand il est humide. Vous savez tous que si vous mettez les doigts proche d'une prise électrique avec les mains mouillées, c'est plus risqué que sec. Donc on a une variation de signal géophysique qui est fortement liée à la variation de teneur en eau. Donc nous, ce qu'on a étudié, c'est cette variation uniquement. Donc en fait on a considéré que les zones où on avait le plus de variations, comme ici, c'est les zones où on a le sol le plus développé, le plus profond, et tandis que les zones ici où on n'a pas beaucoup de variations, c'est les zones où on a le moins de sol. Quand on était sur le terrain, ben, on pouvait se rassurer en allant voir que dans cette zone ici où on n'a pas de variations, c'est une zone où on avait la dalle calcaire affleurante directement. Vous voyez les électrodes de mesure là, peut-être, qui sont planté directement dans la roche, il fallait faire des trous au perfo. Donc c'est plutôt rassurant. Et ça va nous permettre d'étudier la variabilité spatiale le long du profil d'utilisation de l'eau profonde entre les arbres. Et donc on a comparé le signal isotopique, qui nous informe sur l'origine de l'eau. Donc ici, on a donc ces 7 axes. On a comparé le signal isotopique avec le signal géophysique, donc la profondeur du sol. Donc l'origine de l'eau, plus on est de ce côté, plus on a une eau qui est proche de l'eau superficielle, et plus on est vers ici, plus c'est de l'eau qui est souterraine. Et ici, c'est l'axe de l'épaisseur du sol, donc la variation de résistivité, plus on est vers en haut, plus on a de variation de résistivité, plus on a un sol épais. Et donc, en fait, dans les zones où on a un sol les moins épais, comme le A11, l'arbre 11, ici, il a un signal qui va être plus proche de l'eau souterraine. Donc, ça veut dire que l'arbre qui a dans son sol immédiat, directement, qui est dans le sol le plus rocailleux, en fait, il va prélever plus d'eau profonde. Et c'est intéressant aussi de comparer avec le potentiel hydrique foliaire, peut-être que vous êtes un peu plus familier, j'imagine, et qui va nous informer sur le stress hydrique de l'arbre. Plus le potentiel est élevé, donc vous remarquerez que c'est un signe négatif, donc moins l'arbre est stressé. Donc quand on est vers en haut, l'arbre est moins stressé, quand on est vers en bas, l'arbre est plus stressé. Et donc si je garde cette illustration avec l'arbre 11, qui est dans une zone plutôt rocailleuse, sol peu développé, eh bien c'est un arbre qui va être moins stressé. Il prend plus d'eau profonde, On suppose donc qu'il a des racines plus développées en profondeur et qu'il est moins stressé. Et donc tout ça, ça illustre qu'on n'a pas seulement une variation entre les espèces, on n'a pas seulement une variation d'utilisation de l'ose profonde entre les espèces, mais aussi entre les individus. Donc voilà, cette présentation, c'était pour vous apporter quelques chiffres sur ce qu'on pouvait obtenir et puis présenter quelques techniques nouvelles, enfin nouvelles, que vous connaissez, qui n'étaient peut-être pas illustrées avant. Ça reste quand même assez compliqué d'étudier l'eau profonde parce qu'on a du mal à, c'est quelque chose qu'on a du mal à palper, du mal à mesurer. On peut pas le voir. En tout cas, c'est plus difficile que d'aller faire une mesure de débit de rivière, par exemple, ou de pluviométrie. Et en fait, en préparant cette présentation, puis sur le trajet, je me disais, est-ce que ça apporte vraiment quelque chose ? Puisque ça, c'est on va utiliser X% d'eau profonde à un instant donné ou sur l'année. Ça va peut-être plus nous informer sur la capacité d'adaptation ou la capacité des arbres à aller chercher de l'eau profonde que ce qu'ils prélèvent en réalité. Parce que l'eau de pluie qui va se retrouver, si on a un sol très épais, on peut imaginer que l'arbre ne prélève pas d'eau profonde, mais en réalité, qui prive la ressource en eau souterraine, les aquifères, de recharge tout autant qu'un arbre qui va aller envoyer des racines très profondes et aller chercher l'eau dans la zone non saturée. Voilà. Donc voilà, c'était. Je me dis que c'est une vision, c'est quelques résultats, mais ça répondra certainement pas à toutes vos interrogations.
Merci. Tu dois partir à quelle heure?
Je n'ai pas d'heure exacte, mais vers...